France Inter.
Il tue pour n'importe quoi. Il tue pour de l'argent, il viole, il kidnappe. Nous autres, on a une idéologie. Je ne vole pas, je ne kidnappe pas, je ne tue pas pour rien.
Ils se font appeler GPEP, G9, 400 Mawodo, chiens méchants, et ils sont au total plus d'une centaine à Port-au-Prince. Des groupes armés qui sillonnent les rues, bloquent le ravitaillement et tirent à l'arme lourde sur les maisons. Désormais contrôlée à 80% par les gangs, la capitale haïtienne est devenue zone de guerre. 1400 enlèvements depuis le début de l'année, 2500 morts. La première République noire de l'histoire a déjà vécu des épisodes violents, le combat pour l'indépendance, la dictature Duvalier, les tremblements de terre, les ouragans. À chaque fois, elle s'est reconstruite. Mais aujourd'hui, le pays bascule dans le chaos. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, c'est le premier ministre Ariel Henry qui assure l'intérim. Aucune élection n'a eu lieu. Il n'y a plus de parlement, plus de sénat, plus de justice qui fonctionne. Aucun procès pour juger les auteurs d'exactions. Les organisations de défense des droits humains dénoncent des protections et des alliances au plus haut niveau.
Les liens qui existent entre les gangs armés et les autorités étatiques et des membres de la police nationale d'Haïti, ce sont des liens qui sont très forts, ainsi que le secteur économique, le secteur privé des affaires. C'est une mafia qui dirige Haïti et les autorités s'imaginent qu'elles peuvent utiliser ces structures de gangs armés pour se maintenir au pouvoir et surtout pour se renouveler au pouvoir.
Face à ces affrontements, les organisations humanitaires recensent 165 000 déplacés, 2 millions de personnes au bord de la famine. Une population qui se jette, elle aussi, dans la bataille. Ces 5 derniers mois, plus de 350 personnes soupçonnées d'appartenir à des gangs ont été tuées par des groupes d'autodéfense. Le mouvement Bois Calé, littéralement morceau de bois qui se redresse, a démarré fin avril avec 14 suspects interpellés par la police, sortis de force d'un minibus par la foule en colère et lynchés en pleine rue.
La police trouvait un bus, un minibus.
La police venait d'arrêter un minibus chargé d'armes à feu. Il y avait des fusils d'assaut et des calibres 9 mm. Sous le coup de l'émotion, la population a réagi violemment. J'étais là. Par la force des choses, nous avons apporté notre soutien à ce qui était en train de se passer.
C'est dans le quartier de Carrefour-Feuille que commence cette émission. Quartier où les habitants ont fui face à l'attaque le mois dernier du gang de Grand Ravine et où les combats continuent. Haïti, un état en voie de disparition, c'est un reportage d'Omar Waman.
Madame, monsieur, bienvenue à Port-au-Prince. Il est 14h10 en heure locale et la température extérieure est de 32 degrés Celsius.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Là, ici, c'est désert. Tous les habitants sont partis.
C'est le désert.
C'est la police qui tire, là?
Là, c'est une zone perdue.
C'est une zone perdue, ça y est.
Isolée. C'est comme un désert.
C'est comme un désert. Votre prénom, c'est comment?
C'est Casimir.
Là, ça tire fort. Hein.
Oh, oui.
Vous n'avez pas peur?
Non, je n'ai pas peur. Avec Jésus, je n'ai pas peur.
Ah, Jésus vous protège?
Oui.
Ce sont vos chaussures qui font ce bruit là?
Oui.
Vous marchez depuis combien de temps?
Bon, il y a presque 2 heures de temps.
Depuis le centre-ville?
Depuis le centre-ville.
Alors là, c'est le chaos total. Hein.
Oui.
Sur la route, il y a des véhicules calcinés. Puis la population a sorti du matériel électroménager. Il y a des barricades. Il y a quelques habitants, ils sont très rares. Des baskets, des bouteilles d'eau, comme si les gens avaient fui précipitamment. Monsieur, venez, n'aie pas peur.
Je suis stressé.
Vous êtes stressé? Ils ne tirent pas sur les civils, si? C'est possible?
Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui sont morts.
Beaucoup de gens qui sont morts?
Oui.
Il y a des gens qui habitent ici? Ça tire depuis quand?
22 jours.
Les 22 jours, ça tire comme ça là. Bon, je vais y aller. Hein? Plutôt par là? Ok. Bonjour. Vous habitez ici?
Bien sûr.
Et pourquoi vous restez? Vous n'êtes pas parti, vous?
Bon, on arrête ici parce que c'est notre quartier. Nous n'avons pas d'autre côté.
Vous avez nulle part où aller?
Bien sûr, bien sûr. Et c'est bon, vraiment terrible parce que on a vécu dans un pays.
Bon, on vit dans un pays
chargé bandits, on prend,
où il y a plein de bandits.
Bandits mettent nous dehors, en fait, nous avons comme
ils nous ont chassés de chez nous, donc on s'est arrêté ici en attendant de voir comment les choses évoluent.
Mais votre maison, elle est où? Vous habitiez où avant?
Par ici.
Par là-bas, vers l'intérieur.
C'est occupé par les bandits?
Et bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
Donc vous êtes descendu un peu plus bas?
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui.
Et qu'est-ce qu'il veut, ce gang de Grand Ravine?
Veulent contrôler.
Il veut contrôler toutes les rues, toute la zone.
Les espaces. Oh.
Qui tire là? Les bandits ou la police?
La police.
La police nationale haïtienne?
La police nationale haïtienne.
C'est tout le temps comme ça?
Et bien sûr que oui. Et on a vu dans cette zone-là. Bon,
on vit dans cette zone qui a été envahie par les bandits
presque un mois depuis presque un mois. Envahit nous. Et alors, les Wapgad doit pouvoir.
Et comme vous pouvez le constater, l'endroit est désert.
Pas être vraiment isolé. Pas de monde, pas de.
Il n'y a plus personne, plus aucune activité. Les gens abandonnent leur maison en emportant ce qu'ils peuvent.
Alors c'est comme ça. Tout le monde est parti.
C'est comme si on n'était pas des êtres humains.
Chaque côté passé, ces bandits.
Ce sont les bandits qui font la loi, qui tirent.
Aucun dirigeant.
Et nos dirigeants à ce sujet ne disent rien de sérieux.
Sérieusement.
Vous vous sentez abandonné?
Exactement, bien sûr que oui.
On va essayer de sortir.
L'esprit qui est rigolant sous le ciel d'Haïti.
Amène-moi au carrefour Olofsson, c'est possible? Tu m'amènes au carrefour Olofsson? Amène pas.
Merci.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Ah, vous parlez français?
Oui, très bien.
Fantastique. Comment vous appelez-vous?
Moi-même je suis Jeanine Guillaume, secrétaire et coordonnatrice adjointe de CAVIC, qui c'est commission d'appui aux victimes de Carrefour Feuille.
Alors nous sommes pas très loin de Carrefour Feuille. Et c'est ici que des centaines d'habitants de Carrefour Feuille sont venus trouver refuge. Et ici, c'était initialement un terrain de basket. Il y a des toiles de tente partout, des gradins qui sont occupés par des mamans. Combien de personnes ont trouvé refuge ici?
On a 222 familles.
222 familles, ça fait combien de personnes ça?
1145 à peu près.
1145. Ici, les conditions de vie sont très difficiles, hein, sur le plan sanitaire.
Très, très difficile. Très, très difficile. On n'a pas de douche, mais on a aménagé des endroits pour que les femmes puissent se baigner. on a des toilettes, mais en quantité pas suffisante.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs français ce qui s'est passé à Carrefour Feuilles le 13 août 2023
c'est le chaos, c'est boum, c'est comme une bombe. Mmh. C'est tout d'un coup. Il y a beaucoup qui voient leur maison brûler, il y a d'autres qui, par peur, ont laissé leur maison.
Et donc si les gangs avancent, vous allez devoir quitter cette zone?
Probablement, probablement. On ne sait pas quand ils vont arriver. Parfois vous dormez et à minuit, 1h du matin, quelqu'un vient vous dire « Eh, réveillez-vous, réveillez-vous, ils arrivent !»
Ah bon?
Oui, c'est comme ça. Un peu quotidien.
Depuis le 13 août, Janine, est-ce que vous avez eu, vous, les représentants de toutes ces familles, ces 222 familles, est-ce que vous avez eu un contact avec le gouvernement haïtien?
Pas directement. Pas directement l'État ou un ministre, un directeur, quoi que ce soit. Je ne vois pas encore comment on va s'en sortir.
Bonjour madame, comment vous appelez-vous?
Bonjour monsieur, je m'appelle Charles Dominique. Moi,
j'ai perdu un enfant. Il m'en reste 4.
Le 13 août à 2h.
Le 13 août à 14h, on a dû fuir notre quartier car les bandits nous ont envahis. On a été chassés de chez nous. J'étais à la maison avec mes deux bébés et mon mari était au travail lorsqu'ils ont lancé l'assaut. On a appelé au secours, mais personne n'est venu. On a résisté avec tout ce qu'on avait entre les mains, des machettes, des couteaux. Et comme on n'avait aucune chance de gagner, on a été obligés de partir. Et de laisser nos maisons derrière nous. Moi, j'ai perdu 7 membres de ma famille. J'ai perdu un fils de 18 ans, il s'appelait Charles Mickenson. J'ai perdu ma mère, mon beau-père. J'ai appris par la suite qu'ils avaient tous été brûlés vifs.
Comme si on président.
Depuis qu'on est là, on n'a reçu la visite d'aucun officiel, sénateur ou député, pour nous dire ce que l'on va devenir, comme si on n'existait pas. Et alors que les bandits brûlent et détruisent tout sur leur passage, nous, on nous laisse dehors. C'est trop risqué de rentrer chez nous, même pour essayer de récupérer quelques affaires. On a tout perdu. Je suis une morte vivante. Nous vivons entassés, 5 à 6 personnes sous une tente. Les enfants ont la diarrhée, on peut attraper n'importe quelle maladie. Quand il pleut, nous sommes submergés par les eaux. Et quand il fait chaud, on ne peut pas rester sous la tente. C'est pas une vie. Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va. Merci, 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 monsieur Jos
Ulysse, oui, oui. Directeur de l'hôpital Fontaine à Cité Soleil.
Cité Soleil, oui, c'est bien ça.
Nous sommes dans une Jeep blindée.
Oui, bon, on est bien obligé. On est bien obligé de se protéger un petit peu, d'autant plus que là où on y va, c'est une zone assez houleuse, quoi.
Les gangs ont également besoin de cet hôpital.
Oui, ils en ont besoin. S'il y a des blessures par balle, n'importe quoi, ils savent qu'ils peuvent venir et facilement à l'hôpital.
Et vous les soignez?
On soigne tout le monde. Comme disent les Américains, no question asked. On ne pose pas de questions, on vient, on soigne. À l'hôpital, pas de politique, pas d'idéologie, non. On reçoit tout le monde.
Là, on est pris dans un embouteillage monstre. C'est vraiment le chaos total autour de nous. Hein. D'énormes camions, des petites camionnettes chargées de passagers. Les gens essayent de se frayer un chemin. La route est dans un très mauvais état. C'est Haïti.
Oui, malheureusement, c'est ça.
Sur le plan sanitaire aussi, hein, il y a vraiment des problèmes d'hygiène. Là, on est en train de longer une énorme décharge. Il y a des animaux... Des chèvres, des chiens errants dessus, ça fume. Les gens vivent au milieu de leurs poubelles.
C'est dû à l'insécurité. Les camions ne vont pas se risquer pour aller jusqu'en bas. Et aussi, si l'État ne fonctionne pas, on n'est pas capable de payer les chauffeurs, les employés. C'est la grève. C'est un véritable chaos, quoi. Là, on est sur la cour de l'hôpital. On rentre. Oui, là, c'est mon garage. Et Va aller passer une bonne journée. Va aller toucher la réalité du doigt.
On y va. Il y a plusieurs mamans qui donnent des mangues à manger à leurs enfants.
Il y a beau pain. Mais quand des pains, m'a demandé là pour avoir des pains dans mes non. Non ben quand même. Bon moi je veux quand même. Bon, maintenant on va commencer. On va aller voir les enfants en état de malnutrition sévère qui sont accueillis au centre de nutrition de l'hôpital de Fontaine. On va gravir l'escalier, on va aller les voir et on monte.
Allez, on y va. L'hôpital est cerné de barbelés.
Et si vous regardez ces mères, vous pouvez comprendre facilement la situation de ces pauvres mamans. On va monter en haut, on va continuer à traverser et on va arriver. Ok, ce qu'on essaie de faire ici, c'est que on s'arrange pour que les mamans restent avec les enfants. Et les mamans aident aussi dans la prise en charge des enfants. Ouais. Tu dis bonjour, oui.
Bonjour. Bonjour madame. Vous appelez comment?
Cazeneuve.
Cazeneuve. Vous avez quel âge?
18 ans.
C'est un garçon ou c'est une fille?
Garçon.
Un garçon. Il a quel âge?
13 mois.
13 mois.
Oui.
Il a le visage émacié, hein?
Ça fait 10 jours que nous sommes ici. Je suis venue car mon enfant refusait de manger. Il avait tellement maigri qu'il n'avait plus que la peau sur les os. J'étais très inquiète car on voyait ses côtes. Mais depuis qu'on est là, il va mieux. Maintenant, il mange bien.
À qui la faute? Qui est responsable de cette situation?
Les bandits.
La faute à qui? Aux bandits.
Et écraser pays.
Ce sont eux qui détruisent le pays. À cause d'eux, il n'y a plus de travail, plus d'activité. Ce sont eux les chefs du pays. Ça fait 2 ans que je vis avec mon enfant au milieu des affrontements et des balles perdues.
Il a fait un sourire, votre enfant, là.
Oui.
Ça fait plaisir, car avant, il ne souriait pas à cause de la maladie.
Et quand vous êtes arrivé il y a 10 jours, votre enfant, il pesait combien?
Combien de pesait? Il pesait 4 kilos. Il y a 13 mois.
4 kilos?
Oui, 4 kilos.
4 kilos, c'est le poids d'un enfant à la naissance. Merci. 15-9.
Merci.
À bientôt.
Oui.
Cette dame qui chantonne.
Oui, c'est. Elle essaie de passer. Cette vieille dame, elle essaie de passer sa souffrance en chantant. En ruminant quelques mots.
C'est ça que mérite pour changer. Et m'kwe pour me ça, tout n'a qu'est moi. Allez maltraiter, m'zombifier. Ouais, pas changer l'idée. Bon Dieu protège, non, moi. Souple.
Je m'appelle Jean-Martin Boer, je suis le directeur du PAM en Haïti.
Jean-Martin Boer du Programme Alimentaire Mondial, maman haïtienne, en Haïti depuis un an, comme directeur du PAM.
Exact. Dans un contexte assez difficile, hein. Cette dernière année a été marquée par notamment des attaques contre les humanitaires. Il y a plus que 5 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Plus de la moitié de la population est en insécurité alimentaire aiguë. Un Haïtien sur 5 est en insécurité alimentaire sévère. C'est un des pays qui a le taux le plus élevé d'insécurité alimentaire dans le monde après le Sud-Soudan. Nous essayons au PAM d'assister la population, mais les moyens nous manquent. On n'a pas les ressources. Donc je voudrais prendre avantage de votre présence pour lancer un appel angoissé tous les donateurs du PAM pour qu'ils redoublent d'efforts pour Haïti.
Jean-Martin Bauer, cette détresse alimentaire se concentre dans les villes.
La malnutrition se concentre effectivement à Port-au-Prince. On a des taux de malnutrition qui sont évalués selon le ministère de la Santé et l'UNICEF à plus de 12%. Selon l'OMS, quand on est au-dessus de 10%, on est dans une situation d'urgence. Quand on est au-dessus de 15%, c'est un seuil de crise. Et on dépasse le seuil de crise dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Parce qu'il y a une corrélation intime entre la violence et l'insécurité alimentaire et la malnutrition en Haïti. Ce qu'il faut voir cette année, c'est qu'on a ces groupes armés qui se trouvent dans des zones productives, comme l'Artibonite, qui est la zone d'Haïti où il y a l'irrigation, où il y a une agriculture commerciale relativement développée, qui sont passés sous le contrôle des groupes armés, qui empêchent les agriculteurs d'aller dans les champs. Ils empêchent les madansara, donc les vendeuses des marchés qui vont chercher les produits du cru auprès des producteurs pour les amener sur les marchés de gros. J'ai rencontré des madansara qui m'ont dit qu'elles ont été kidnappées pendant 3 jours avec des rançons de plusieurs milliers de dollars. Ça veut dire que les personnes qui doivent alimenter ce pays sont terrées chez elles en train de se cacher. J'ai vu des quantités énormes de mangue en train de pourrir sur le sol dans la commune de Petite Rivière de Bayonnais près de Gonaïves, alors que ici à Port-au-Prince ou même au Gonaïves, on voit dans les hôpitaux des enfants atteints de malnutrition aiguë, sévère. Ce pays peut produire. On est ici en Amérique latine, on est dans les Caraïbes, on n'est pas loin des États-Unis, on n'est pas loin des pays où règne l'abondance. Ce n'est pas le Sahel, ce n'est pas l'Éthiopie ici. Et pourtant, les indicateurs de sécurité alimentaire sont catastrophiques.
Au manque de nourriture, à la crainte d'une famine, s'ajoute la colère d'une partie de la population déterminée à prendre les armes pour lutter contre les groupes criminels. Le point de départ de ce mouvement d'autodéfense baptisé Bois-Calais, c'est l'émotion suscitée par le meurtre d'une mère et de ses deux filles brûlées l'an dernier dans leur voiture. Ces violences dont les femmes sont victimes, l'association Négouès Mahon y est confrontée quotidiennement. Elle organise des ateliers de théâtre à Pétionville, sur les hauteurs de Port-au-Prince. C'est là qu'on retrouve Omar Waman. Sur scène, 13 femmes originaires de bidonville, toutes ont subi la violence des gangs.
Interception sur France Inter.
Samantha, vous avez 43 ans, 2 enfants. Qu'est-ce qui vous est arrivé le 22 février 2023?
22 février, après ma croix des Beaux-Sales.
Je sortais du marché de Croix des Beaux-Sales quand j'ai croisé un bandit qui m'a interpellé. Il m'a accusé d'appartenir au gang de Bout de Jean-Jean, le gang rival. Je l'ai ignoré, j'ai continué ma route. Il m'a rattrapé. Il était avec 3 hommes, tous armés. Il m'a dit, je te parle, tu réponds pas? Je lui ai dit, mais non, je ne fais pas partie du gang de Bout de Jean-Jean. Il ne m'a pas cru. Ils m'ont emmené dans une maison et m'ont violé. Je les ai suppliés d'arrêter. Au lieu de ça, ils m'ont insulté et m'ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout. C'est pire que des monstres.
Et ces hommes qui vous ont violé, ils appartiennent à quel gang?
G9.
G9. Le gang de barbecue.
C'est bien ça.
Et vous avez porté plainte?
Non. Même l'aime porter plainte.
Porter plainte? Non, ça ne sert à rien. Ils ne feront rien pour moi. Pour porter plainte, il faudrait qu'il y ait une justice, mais il n'y a pas de justice. Je garde ma souffrance et ma cicatrice pour moi. Je vis avec. Je n'oublierai jamais. Je n'ai pas porté plainte car j'avais peur des représailles et de perdre la vie. Mes enfants se seraient retrouvés seuls, donc je suis obligée de vivre avec cette douleur. Ce sont mes enfants qui m'aident à tenir, surtout le deuxième qui n'a que 14 ans. À chaque fois que je veux me faire du mal, je le regarde et je me dis « Que va-t-il devenir si je meurs ?»
Ces quatre hommes, vous les avez recroisés depuis le viol ?
Non. J'évite de me rendre là où ils pourraient se trouver. Donc je ne vais plus au marché de Croix des Beaux-Salles. Après ce que j'ai vécu, j'aimerais quitter le quartier de la Saline, car ce n'est pas une vie. Mais c'est compliqué.
Parce que ce n'est pas facile.
Bonjour, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Bonjour. Merci de m'accueillir.
Pas de problème.
Il n'y a pas de caméra, non, il n'y a pas de caméra.
Donc on a un problème pour nous faire interview, non ?
Il n'y a pas de caméra. Non, non, c'est sûr, vous pouvez me faire confiance. Il n'y a pas de caméra.
Mais c'est vrai, samedi là, samedi, je vais. Mettez au stade avec elle. Son radio, là.
Oui, radio.
Son mal. Je fais les salutations d'usage en français. On va commencer à enregistrer là.
Oui, c'est tout.
Ok, c'est pas de problème.
Très rapidement, nous sommes dans quel quartier ici, Jimmy Chirizier ?
Et vous êtes à Delma 6. J'ai grandi ici et j'habite ici.
Alors ici, tout le monde vous connaît par le nom de Barbecue. Est-ce que c'est vrai que vous avez passé 14 ans dans la police ?
J'ai intégré la police nationale d'Haïti en décembre 2004. J'ai passé 13 ans et quelques mois dans l'UDMO, l'unité départementale et du maintien d'ordre.
Et vous avez changé de voie. Pourquoi ?
Je n'ai pas changé de voie. Le système m'a forcé. Le système m'a emmené là où je suis maintenant.
On parle de gangs, de groupes armés qui se partagent Port-au-Prince. On dit que vous êtes à la tête du G9. Vous faites la différence entre les gangs et les groupes armés. C'est pas pareil pour
Non,
vous.
C'est pas pareil. Les gangs armés n'ont pas d'idéologie. Ils tuent pour n'importe quoi. Ils tuent pour de l'argent, ils violent, ils kidnappent.
Ça, c'est pas votre cas.
Non, dans le cas du G9. Nous autres, on a une idéologie. On lutte pour le changement de ce pays.
Vous dites que votre coalition, elle n'a commis aucune atrocité ?
De quelle atrocité vous parlez ?
La semaine dernière, j'ai rencontré une dame qui dit avoir été violée par quatre hommes appartenant au G9, donc votre groupe. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
La femme habitait, où est-ce qu'elle habite ?
La Saline.
Elle habitait à la Saline. Pour répondre à votre question, dans les zones dont moi, Jimmy Chirizier, Barbecue, dans les zones du G9, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très très difficile qu'un membre du G9 puisse violer une femme, une fille, sans en subir les conséquences. On ne tolère pas ça à nous autres.
Aujourd'hui, quel territoire vous contrôlez, Jimmy Chirizier, Barbecue ?
Ah, maintenant, vous voulez une cartographie. Okay. En gros, ce sont les territoires du G9.
Vous êtes armé, vous avez une arme de poing.
J'ai des armes.
Des armes. Autour de nous, il y a des jeunes qui ont des armes également. D'où viennent ces armes ?
Je ne vais pas répondre à cette question. On a des armes. On a beaucoup d'armes. Ce n'est pas pour terroriser les gens dans nos quartiers. Je ne vole pas. Je ne kidnappe pas. Je ne tue pas pour rien. Nous autres, on fait partie du problème. Et on a notre part de responsabilité, ça je l'accepte et je l'assume. Mais maintenant, qui est le problème ? Les groupes armés ? Ou les groupes armés ou l'État ?
Barbecue, est-ce que c'est vrai que certains groupes armés sont de connivence avec le pouvoir en place, avec le gouvernement ?
Et
on entend ça dans les rues de Port-au-Prince.
Moi, je dis que un voleur ne peut pas arrêter un autre voleur. Un gang ne peut pas arrêter un autre gang.
On t'y va toujours avant d'aller, mon cher.
Qu'est-ce que ça fait, chérie ?
Ouais,
Voix Calée, c'est le nom que s'est donné cette milice d'autodéfense qui gagne du terrain dans la capitale haïtienne. Ses membres sillonnent les rues de Port-au-Prince équipés de machettes et d'autres armes artisanales.
C'est ici, devant ce commissariat du Canapé Vert, le quartier Canapé Vert, un quartier en plein cœur de la capitale Port-au-Prince, qui a eu lieu le lundi matin 24 avril, une scène particulièrement atroce. Selon plusieurs témoins, 14 hommes soupçonnés de faire partie d'un gang ont été lynchés par une population en furie, lynchés et brûlés vifs. Et c'est ce qu'on considère comme étant le point de départ du mouvement Bois Calais, le mouvement d'autodéfense. On va aller à la rencontre de témoins de cette scène. Ils sont très nombreux ici hein, et les langues se délient assez facilement.
Alors, je suis Joseph Jonel, le porte-parole principal de l'organisation et Force Canapé Vert Réveillé.
Canapé Vert Réveillé, cette organisation sociopolitique. Ici dans ce quartier. Le 24 avril au matin, vous étiez où et qu'est-ce qui s'est passé?
Je suis aux environs de la zone.
J'étais dans les environs.
Plus précisément et sur la route du Canapé Vert.
Plus précisément sur la route de Canapé Vert.
Aux environs des 5 heures du matin.
Il était environ 5 heures du matin quand nous avons rejoint un rassemblement près du commissariat.
La police,
car la police venait d'arrêter un minibus chargé d'armes à feu.
Et puis, dans la vérification, nous avons plusieurs galils.
Il y avait des fusils d'assaut et des calibres 9 mm.
En ce sens, et la police commençait et fait interpellation. Et puis
les policiers ont procédé à des interpellations et ont découvert que les passagers étaient en fait des membres d'un gang armé.
Population lui-même émotionnellement réagit.
Sous le coup de l'émotion, la population a réagi violemment. Et c'est de là qu'est parti le mouvement Bois Calais qui s'est ensuite propagé à travers tout le pays.
Vous avez participé ? Au lynchage ?
Non, mais j'étais là.
Par la force des choses, nous avons apporté notre soutien à ce qui était en train de se passer.
Ça qu'a fait là. La police était là, mais la foule était tellement nombreuse. 500 monde.
500 à 600 personnes.
Absolument, oui. Donc la situation
donc, la police a été dépassée par la situation.
En d'autres termes,
le pays n'est pas dirigé, pas gouverné. Donc la seule solution, c'est de poursuivre le mouvement Bois Calais jusqu'au bout.
Et parmi les victimes de ce mouvement d'autodéfense de Bois Calais, il y a des innocents. Des gens qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, comme Rubenson Chéri. Il est hospitalisé dans cet hôpital général, cet hôpital d'Université d'État d'Haïti. Bonjour Rubenson.
Bonjour monsieur. Le 17 août, côté qui était victime des balles.
Le 17 août dernier, j'ai été blessé par balle. Je ne sais pas si c'était par la police ou par les bandits.
Pendant que par un...
Pendant que mes parents me portaient secours, des habitants qui se faisaient passer pour une brigade d'autodéfense ont fait semblant de nous aider et se sont emparés de moi avant de m'enfermer dans une maison remplie de gens armés de machettes. Ils m'ont assailli de questions, ensuite ils m'ont tabassé, passé une corde autour du cou, et attaché alors même que j'étais blessé par balle. Ils m'ont traîné comme un animal dans le but de me brûler vif. J'avais le dos et le torse en sang.
Et à ce moment-là, vous pensiez que c'était la fin ?
C'était fini pour moi-même. Pour moi-même, parce que c'était fini, donc...
Pour moi, c'était fini. J'étais sûr de passer de l'autre côté.
C'est ça que moi j'ai pensé. Mais c'est comme ça tout. Il y a un policier qui paraît.
Mais c'est à ce moment-là qu'un policier est arrivé. Il a sorti son arme et a dit que personne ne touche à ce gars, je le connais. Il a tiré en l'air pour disperser la foule. Et après, d'autres habitants de Carrefour Feuille m'ont également reconnu et se sont manifestés. On m'avait pris pour un bandit, mais je ne suis pas un bandit.
Et pourquoi ils vous ont pris pour un membre d'un groupe armé ?
selon Jean situation TEA.
Mais c'est à cause de la situation.
Elle dit comme tout le monde en monde.
Les gens bougent beaucoup, fuient leur quartier, vous comprenez?
Elle dit les moments qui vont passer dans.
Et dès que vous passez d'une zone à une autre, vous pouvez être soupçonné de ça. Je suis une victime innocente de Bois-Calais. Mais je ne suis pas la seule victime de ce mouvement. Il y a de nombreuses personnes qui ont été lynchées par la population alors qu'elles n'avaient aucun lien avec les gangs.
Nous sommes dans les locaux d'une organisation qui fait un travail énorme ici en Haïti. C'est le Réseau National de Défense des Droits Humains. Rosie Auguste du Sénat, vous êtes responsable de programme au sein du RNDDH depuis le 24 avril, naissance de ce mouvement Bois-Calais. Des innocents sont morts. Ils ont été pris pour des gangsters, ils ne l'étaient pas.
L'une des conséquences du mouvement Bois-Calais, effectivement, a été que des victimes innocentes ont été lynchées. Et donc, pour nous, dès le départ, ça n'a jamais été une solution à la situation sécuritaire en Haïti. Parce que le procédé, c'était quoi? C'était que quelqu'un pointait un autre du doigt et disait que celui-là, il est membre d'un gang armé, et qu'ensuite, il était lynché, il était immolé. Malheureusement, puisqu'il y avait toute cette euphorie autour de ce mouvement, on n'en parle pas suffisamment. On est aujourd'hui à un point de non-retour. On s'imagine à chaque fois que l'on a atteint le fond, sauf qu'à chaque fois, on se rend compte qu'on peut aller plus bas encore. Et nous pensons qu'il y a quand même une leçon que l'on peut retenir de ce mouvement. C'est une population qui est isolée par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'insécurité. Et dans tout ce qui semble n'être que des luttes hégémoniques entre gangs armés, il y a toujours des intérêts politiques, électoralistes, économiques qui se jouent par en dessous. Les liens qui existent entre les gangs armés et les autorités étatiques et des membres de la police nationale d'Haïti, ce sont des liens qui sont très forts, ainsi que le secteur économique, le secteur privé des affaires. C'est une mafia qui dirige Haïti, et les autorités s'imaginent qu'elles peuvent utiliser ces structures de gangs armés pour se maintenir au pouvoir et surtout pour se renouveler au pouvoir.
L'un des symboles de cette difficulté à rétablir les structures de l'État en Haïti, c'est l'image d'une Toyota Prado criblée de balles. 13 impacts au total, le résultat de la tentative d'assassinat en mai dernier d'un juge chargé d'enquêter sur des affaires de corruption et de prise illégale d'intérêts dans les milieux politiques et l'administration. Difficile dans ces conditions de rétablir l'ordre. Alors que la possibilité d'une intervention internationale se profile, c'est à bord d'un blindé de la police qu'on retrouve au Marouaman.
France Inter, Interception.
On a pris place à bord de ce blindé. À bord de ce blindé, il y a 4 membres de cette unité départementale de maintien de l'ordre. C'est la climatisation qui marche, qui tourne là. Là, on se dirige vers Tabar, là où se trouve l'ambassade des États-Unis.
C'est très dangereux, c'est très risqué là.
Et quand ils vous voient, les gangs, ils vous tirent dessus?
Parfois oui, parfois oui. Partout dans le monde, être policier, c'est une mission difficile. Encore plus difficile pour Haïti.
Vous êtes payé combien par mois?
30 000 gourdes.
30 000 gourdes?
Pour les agents. Mais on a d'autres frais, on a prime de risque.
Au total, ça fait combien? $400 en gros par mois?
Peut-être. Peut-être.
Vous avez perdu des amis dans la police?
Oui, beaucoup. C'est beaucoup.
Si vous croisez quelqu'un d'armé qui n'est pas policier ou membre des sécurités haïtiennes, vous ouvrez le feu?
Oui, certainement.
Ça va?
Oui, je suis le chauffeur.
Comment ça va?
Ça va, je vais bien et toi?
Votre prénom?
Andy. Et j'ai 28 ans.
Depuis combien de temps dans la police?
À peine 2 ans.
Vous vous êtes déjà retrouvé dans une embuscade?
Ouais. Les bandits ont bloqué la rue, on ne pouvait pas passer. On tirait tous.
Vous avez eu peur?
Peur de quoi? Non. J'ai peur de rien. Je suis venu de la police et je sais très bien exactement ce qu'est la police et ce que veut dire la police.
Vous avez les moyens de mener votre mission?
Je peux dire non. Nous n'en avons pas. Et nous avons besoin des hélicos de guerre également pour combattre ces bandits.
Il vous faut des hélicoptères?
Pour déloger les bandits, sinon on ne pourra jamais gagner ce combat avec eux. Ça provoque de la colère, on est fâché.
En face, ils ont des armes de guerre. Vous vous posez la question parfois, mais d'où viennent ces armes?
Voilà, je me pose cette question. Je me pose toujours cette question. D'où viennent ces armes-là? Et des munitions également.
Une force étrangère devrait venir en Haïti pour vous épauler dans votre mission. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
D'après vous, vous croyez que cette force étrangère va venir nous aider pendant que nous ne voulons pas nous aider nous-mêmes? Hein? Nous, la police, nous pouvons faire ce travail. Nous avons manqué de matériel comme des hélicos de guerre, des drones, des blindés, les chars que l'Occident voit en Ukraine. Nous les voulons aussi. Vous voyez, nous les voulons aussi. À chaque jour qui passe, c'est une grâce pour nous. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis dans nos rangs. Point de traite du sol, soyons seuls maîtres.
Et les traîtres, ce sont les bandits, hein?
Ah, ils nous ont trahis. Les bandits nous ont trahis. Ils n'aiment pas leur propre pays. Wow.
Aujourd'hui, vous êtes inquiet pour Haïti?
Très inquiet parce que moi, je ne vois pas mon avenir dans ce pays. On pourra vivre une nouvelle Haïti si le gouvernement change. Mais dans le cas contraire, on restera comme ça.
Bonne chance.
C'était un plaisir pour moi. Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Dans les rues de Port-au-Prince, il n'est pas rare de croiser des banderoles hostiles à l'ONU. Les Haïtiens, en fait, n'ont pas oublié les viols, les nombreux viols commis par les casques bleus de la MINUSTAH, la mission onusienne, entre 2004 et 2013. Ils se souviennent également que ce sont ces mêmes casques bleus qui ont introduit le choléra en Haïti. Et c'est ce qui avait causé la mort d'au moins 10 000 personnes et provoqué près de 800 000 contaminations. Camille Chalmers, vous êtes économiste et représentant de la PAPDA, la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. L'histoire d'Haïti, c'est une longue succession de tragédies et d'interventions étrangères ratées.
Bon, Haïti est un pays qui a subi des chocs et des chocs violents et qui ont eu des conséquences profondes et durables. Le premier choc, évidemment, c'est l'occupation militaire des États-Unis en 1915. Le deuxième choc, ça a été la dictature des Duvaliers, qui a ravagé le pays. Le troisième choc, c'est le tremblement de terre. Et puis vous avez, depuis 1983, la présence du Fonds monétaire international, qui a causé, par exemple, l'affaiblissement de l'économie paysanne, alors que c'est un pays qui avait la capacité de se nourrir et qui était autosuffisant, par exemple, dans les années 70-72. Donc on est passé d'un pays autosuffisant en céréales, notamment en 72, à un pays qui importe 82% de sa consommation risicole annuelle des États-Unis. Et nous sommes devenus le troisième importateur plus important de riz américain au monde. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple. Mais il y a tout un ensemble de mesures, par exemple la libéralisation financière, la libéralisation du marché financier, parce qu'on avait une monnaie nationale attachée au dollar, et on est passé à un taux de change flottant. Et la gourde a perdu 3000% de sa valeur entre 1982 et 2023.
La gourde, c'est la monnaie haïtienne.
La monnaie haïtienne, vous voyez. Et vous avez une gestion financière qui est une gestion comptable. Et donc, le choc des politiques néolibérales a transformé l'économie nationale, a affaibli l'État de façon très significative, parce que la plupart des entreprises d'État ont été soit vendues, soit fermées, et qui explique aujourd'hui que vous avez une paysannerie complètement dans une situation désespérée, qui n'arrive pas à rentabiliser ses efforts et qui a tendance à migrer massivement, soit vers Port-au-Prince. Donc vous avez une macrocéphalie urbaine absolument ingérable. Vous avez une ville, Port-au-Prince a été construite pour 200 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 3 600 000. Vous voyez. Donc, vous avez une explosion urbaine. Vous avez des centaines de milliers de gens qui viennent habiter à Port-au-Prince. Donc, vous avez cette folie que représente Port-au-Prince aujourd'hui. Et je pense que le phénomène des gangs est lié à cela. Vous avez une absence de gestion du territoire, une absence d'aménagement du territoire et une logique où l'État exclut la grande majorité des masses de l'accès aux services de base, c'est pas de l'accès à l'eau potable, de l'accès aux services d'assainissement, etc. Donc vous avez une grande partie de la population qui se sent complètement abandonnée. Donc évidemment, pour les gangs, c'est un territoire très favorable de recrutement. Donc tous ces chocs sont interreliés. Donc c'est un pays qui a vécu tous ces chocs de façon presque simultanée. Et vous avez effectivement une déstabilisation de l'État. Vous avez une déstabilisation de la société. On ne peut pas avancer sans vraiment changer fondamentalement l'État haïtien.
Haïti, un État en voie de disparition, c'est un reportage d'Omar Waman. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Alison Ascrisi. Cette émission est à réécouter dès maintenant sur franceinter.fr.